Les prix s'envolent, le pétrole se raréfie, la demande augmente, les batailles pour l'or noir s'intensifient. Au nom du pétrole, tout est permis. Guerre, corruption, violation des droits de l'homme. Avec la hausse des prix, de vieux gisements redeviennent rentables. Pour qui ? Les éléments du dossier que nous avions ouvert en octobre dernier sont toujours d'actualité. Reprise.
Rue des Entrepreneurs.
Le pétrole est l'excrément du diable. La formule est de l'un des fondateurs de l'OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso. Le Vénézuélien, déjà dans les années 70, tirait la sonnette d'alarme sur tous les problèmes qu'apporte le pétrole. Misère, corruption et parfois la guerre à ceux qui en ont. Deux chocs pétroliers plus tard, ce brut si convoité est un enjeu stratégique majeur. Les Chinois en cherchent désespérément. Les Indiens aussi. Ils parcourent la planète en quête de sociétés à vendre, ils nouent des partenariats avec des pays producteurs et ne s'embarrassent pas de questions de respect des droits de l'homme pour trouver des sources d'approvisionnement. Cela étant, avec 24 millions de barils jour, ce sont l'Europe et les États-Unis qui sont les plus gourmands et qui le resteront. Le mode de vie des Américains n'est pas négociable, avait martelé George Bush père. Quant à l'Europe, consciente que le temps du tout pétrole est arrivé, elle a du mal à passer à l'action. En attendant, qui va tirer les profits de ce monopole pétrolier? Pétrolier géant, tous les espoirs sont permis et ils risquent d'être déçus. Pétrole, l'excrément du diable, c'est le dossier de Rue des Entrepreneurs aujourd'hui.
Didier Hadès.
Dominique Dambert.
Bonjour. L'OPEP produit du pétrole presque à capacité maximale pour maîtriser des prix qu'elle juge trop élevés. Les stocks et les capacités non exploitées sont suffisamment importants pour parer à toute baisse inattendue de l'offre. C'est le communiqué de l'OPEP le 17 avril, il y a deux semaines, qui n'a pas eu l'influence souhaitée sur les cours du brut. En ce moment, c'est la course atomique de l'Iran qui fait grimper les cours, l'Iran qui au passage, rappelons-le, est membre de l'OPEP. Ce communiqué de trois lignes qui résume la complexité du marché pétrolier, voilà qui laisse imaginer les dimensions géopolitiques. Politique du pétrole. Rue des Entrepreneurs, à sa façon, apporte sa contribution au débat, mais nous savons bien que le dossier, depuis le premier choc pétrolier de 73, est un dossier brûlant et qu'il est loin d'être clair. D'autant que, depuis quelques mois, de nouveaux acteurs, consommateurs, s'invitent autour de la table. La Chine en particulier. Le pétrole est un besoin vital. Or, sur ce marché-là, il ne suffit pas de payer pour être servi. De là à penser que le pétrole est le ressort de l'équilibre du monde et de ses tensions, François Lafargue, docteur en géopolitique, anime le séminaire géopolitique contemporaine à l'École centrale de Paris et il enseigne à l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Alors, je pense que la crise pétrolière actuelle a plusieurs raisons, plusieurs fondements. Alors, premier point, qui est très simple, c'est vrai, c'est la situation politique internationale. Alors, guerre en Irak, crise en Arabie Saoudite, chaos au Venezuela. Deuxième élément, c'est aussi la mise en place de stocks stratégiques décidés par les États-Unis, qui d'ailleurs ont été suivis par la Chine et qui demain seront suivis par l'Inde. Donc, en réalité, ces États, eh bien, achètent des quantités considérables, hein, qui représentent un trimestre à un semestre de leur consommation annuelle sur les marchés libres, ce qui fait effectivement monter les prix. Alors, troisième raison, et là c'est un débat qui mérite effectivement d'être ouvert, c'est le décollage de la Chine, et ça personne ne peut le contester, et l'apparition plus timide, dont on ne parle pas assez, de l'Inde. Et ces deux acteurs, effectivement, sont en train de peser lourdement sur les prix mondiaux du pétrole. Alors, on ajoute à ça, c'est vrai, d'autres petits paramètres, à la croissance qui a été assez dynamique aux États-Unis, 3% l'an dernier, hein. Un mode de consommation aux États-Unis, bon, qu'on peut toujours facilement critiquer, mais qui est ce qui est, il y a très peu de transport public. Les Américains consomment beaucoup de fuel pour se chauffer l'hiver, puisque le réseau nucléaire est très peu développé. Alors l'été, on pourrait se dire, ils se chauffent pas, c'est vrai, mais ils prennent leur voiture pour partir en vacances, et surtout, ils mettent la climatisation au maximum. Bon, ce qui fait là encore que la consommation de pétrole ne fléchit pas l'été. Ce qui était encore le cas il y a une dizaine d'années.
Deux chiffres à rappeler, François Lafargue, les Américains consomment 40% de l'essence mondiale, alors qu'ils ne représentent que 6% de la population.
Voilà, les Américains sont importateurs de pétrole, de manière, je dirais, structurelle, depuis 1949. Bon, mais il faut bien relever que les Américains sont généralement les premiers producteurs mondiaux, ex aequo avec la Russie, l'Arabie Saoudite. Bon, l'ordre peut changer, hein, mais ils sont parmi les tout premiers, si ce n'est premiers, et ils sont les premiers importateurs mondiaux et premiers consommateurs mondiaux. Bon. Mais attention, contrairement à ce qu'on pense souvent, les États-Unis dépendent très peu finalement du Moyen-Orient, puisque aujourd'hui ce n'est que 22% de leurs importations qui viennent du Moyen-Orient, pas que l'Arabie Saoudite, hein, la région du Moyen-Orient. Leurs principaux fournisseurs sont le Canada, le Mexique et également le Venezuela. Et c'est pour ça que l'évolution de la situation au Venezuela reste préoccupante pour les Américains. Donc la dépendance américaine, elle existe en termes énergétiques, mais en termes politiques, elle est moins flagrante, moins dangereuse qu'on peut parfois effectivement le penser.
Le Venezuela, François Lafargue, reste un acteur important pour les Américains, mais c'est aussi un acteur important pour les Chinois, d'où la compétition entre les États-Unis et la Chine.
Voilà, alors déjà en termes de chiffres, hein, le Venezuela c'est 6,5% des réserves mondiales de pétrole, ce qui est considérable. Hein. À titre de comparaison, pour éclairer nos auditeurs, l'Irak c'est 10%, le Koweït c'est 10%, l'Arabie Saoudite c'est 25%. Donc le Venezuela c'est à peu près plus de deux fois les réserves américaines. Donc c'est vrai que nous avons eu au Venezuela un président, Hugo Chavez, qui a été élu hein, démocratiquement, il faut le reconnaître, qui d'ailleurs a été réélu également démocratiquement. Alors dans un premier temps, Chavez incarne un peu la gauche populiste, marxiste même, disons-le, en Amérique latine, je dirais dans le courant de Lula, hein, qui a pris le pouvoir lui au Brésil il y a quelques années.
Donc les Américains, lui aussi démocratiquement.
Élu lui aussi, voilà, démocratiquement, mais à la limite, on peut dire voilà que c'était la logique un peu l'histoire. Les Américains ne se sont pas opposés non plus à ces évolutions politiques plutôt effectivement encourageantes. Donc Chavez a commencé, c'est vrai, un peu à défier les États-Unis, notamment en se rapprochant de Cuba, puisque Cuba manque cruellement d'énergie. Hein, et Chavez s'est proposé, et d'ailleurs l'a fait, il livre du pétrole à Cuba en échange hein, de l'envoi de coopérants, techniciens et principalement d'ailleurs de médecins. Donc cette défiance envers les États-Unis, des discours très radicaux, très populistes, c'est vrai, a amené les Américains à sanctionner Chavez et Chavez finalement à se rapprocher de la Chine. Bon, alors peut-être que les Chinois ont un peu exacerbé, c'est vrai, hein, c'était un peu leur intérêt, ce divorce entre le Venezuela et les États-Unis. Alors, les Chinois sont très présents aujourd'hui au Venezuela. Alors, les Chinois construisent les raffineries, ont obtenu des concessions pétrolières et dans la mesure où la demande chinoise est telle, et que le canal de Panama ne permet pas de faire passer suffisamment de navires pétroliers, eh bien la Chine, tout simplement, se propose aujourd'hui de construire un oléoduc qui traverserait tout le Venezuela, la Colombie, pour arriver tout simplement dans un terminal portuaire sur la côte Pacifique.
Avec 6,5% de réserves mondiales de pétrole, le Venezuela est un acteur de plus en plus important sur le marché et de plus en plus courtisé. En visite à Paris, le président Hugo Chavez a rencontré le PDG de Total, Thierry Desmarais. En avril dernier, le président vénézuélien a décidé de réviser à la hausse, bien sûr, les contrats signés avec les compagnies étrangères, avec comme perspective d'augmenter le taux de royalties de 30% et de faire passer l'impôt sur les sociétés de 34 à 50%. Prendre aux riches pour redistribuer aux pauvres, c'est le message qu'a martelé Hugo Chavez au cours de son voyage à Paris. Propos recueillis par notre confrère Yves Izard de France Info.
Télésur, Petrosur. Une alliance énergétique sud-américaine.
Télésur, Petrosur, une alliance énergétique sud-américaine. Petrocaribe fonctionne déjà avec Cuba, la République dominicaine et tous les pays des Caraïbes. C'est une vraie alliance pour coopérer avec les peuples, parce que nous savons la pauvreté qu'il y a dans la zone caribéenne. Nous aussi, nous sommes pauvres, mais nous avons l'avantage du pétrole. Et la hausse des prix du brut nous permet d'appuyer encore plus de mesures sociales, de projets de transformation et d'aider d'autres pays. Nous avons même offert de l'aide aux pauvres des États-Unis. Nous sommes allés aux États-Unis pour proposer notre aide et nous l'avons fait vraiment de bon cœur. Nous avons reçu des demandes de communautés pauvres de Chicago, de Boston, de New York, par le biais de leaders comme le révérend Jeff Jackson, le maire, les députés, quelques démocrates du Bronx. Les communautés nous ont envoyé des lettres, les transporteurs qui ne supportent plus le prix de l'essence, le poids du fuel pour le chauffage maintenant que l'hiver arrive. Comme nous avons aux États-Unis une grande entreprise, 100% vénézuélienne, qui a 8 raffineries, 14 000 stations essence et qui raffine chaque jour plus de 2 millions de barils de pétrole, cela ne nous coûte rien de rediriger une partie des bénéfices de cette entreprise à l'aide aux communautés pauvres des États-Unis. Cela ne nous coûte rien, vu comment la pauvreté a augmenté aux États-Unis.
Et le pétrole est aussi une arme idéologique pour le Venezuela, 8e producteur mondial. Hugo Chavez continue à affirmer son soutien au régime cubain. Il ne rate pas une occasion de dénoncer les États-Unis, dit-il, première menace pour le monde. Il vient aussi de rappeler son adhésion au Mercosur, marché commun sud-américain, pour contrer le projet américain de zone de libre-échange. Il leur vend tout de même son pétrole et il investit dans 8 unités de raffinage aux États-Unis. Bref, le pétrole donne au Venezuela les moyens de faire de l'anti-américanisme. Julio Burdman, directeur de la faculté de relations internationales de l'université de Belgrano à Buenos Aires, en Argentine.
L'anti-américanisme de Chavez, il faut comprendre ça dans la culture politique vénézuélienne, non? Mais aussi, il faut noter que même quand Chavez est maintenant une espèce de leader anti-américaniste en Amérique latine, la relation commerciale du pétrole vénézuélien avec l'Amérique n'a pas changé dans les dernières années, non? Maintenant, Venezuela exporte les 20% de pétrole qui consomment les Américains.
Mais indépendamment des problèmes politiques, est-ce que finalement la rente pétrolière d'un certain nombre de pays ne les empêche pas de développer une économie alternative? C'est ce qu'on a l'impression de voir avec le Venezuela, qui vit pour et par le pétrole.
Je crois que maintenant, avec le pétrole si cher qu'on a dans le monde, pour le Venezuela, cette équation primaire de distribution de l'activité est maintenant rentable, non? Mais
est fragile.
Et très fragile, bien sûr. Mais avant tout, il faut aussi comprendre que pour le chavisme, ces situations de pétrole cher est une situation de long terme.
Alors, le pétrole, c'est vrai que ce n'est pas un facteur, et on le voit à travers le monde, de démocratie, mais Julio Burdman, est-ce que c'est facteur de stabilité ou d'instabilité politique?
Quand la découverte du pétrole existe dans des pays avec une économie très primaire, c'est un facteur d'instabilité politique.
Quoi? Ça, quel pays, par exemple?
Des pays africains, oui, parce que quand un gouvernement a un contrôle si fort de ressources nationales et de ressources de l'État, la tentation pour construire un contrôle hégémonique de ressources et de la rente ferme les passes de concurrence politique. Alors, on a besoin de pays avec une tradition démocratique et une institutionnalisation de l'État et aussi avec un système décentralisé du pouvoir politique très fort pour qu'on puisse compenser les problèmes qui posent la excessive rente pétrolière avec le contrôle du gouvernement.
Du dossier pétrole, l'excrément du diable. Diliades, Dominique Dambert.
Alors que bon an mal an, un milliard d'habitants captaient l'essentiel de la ressource pétrolière, le monde découvre plus ou moins soudainement que 3 milliards d'habitants s'invitent à la table. Les Chinois, bien sûr, qui ont dépassé leurs prévisions pour 2007, mais aussi les Indiens qui ont évidemment besoin du pétrole pour leur développement. À cela, il faut ajouter les tensions provoquées par la course nucléaire iranienne ou l'approche de la saison des ouragans dans le golfe du Mexique. Les ravages occasionnés l'été dernier par les cyclones Rita et Katrina dans les installations pétrolières américaines avaient propulsé le cours du brut au niveau record de $70.80 par baril à New York. Alors, les prévisions sur le prix du baril vont bon train. Certains experts parlent d'un baril à $100 dans moins de 2 ans, d'autres disent que c'est pour décembre prochain. Patrick Artus, directeur des études économiques du groupe Caisse d'Épargne et du groupe Caisse des Dépôts, vient d'écrire aux éditions font la découverte. Avec Marie-Paul Virard, le capitalisme est en train de s'autodétruire. Pour cet économiste distingué et sérieux, le prix du baril pourrait atteindre 380 $ d'ici à 2015. Démonstration.
C'est un calcul extrêmement théorique, hein, qui consiste à dire le pétrole est une matière épuisable. Or, en économie, on dispose d'une théorie assez simple, hein, pour le prix des matières épuisables. Le prix des matières épuisables doit augmenter plus vite que le prix des produits normaux, hein, qu'on peut refabriquer tous les jours, simplement parce qu'il faut en limiter justement l'épuisement. Il faut conserver des réserves pour le futur. Et dans le modèle le plus simple, hein, on peut calculer de combien, en fait, le prix relatif du pétrole par rapport aux biens normaux, à nouveau aux biens qu'on peut fabriquer, doit augmenter. Et on a simplement appliqué cette évolution qui est souhaitable. Hein. Il faut que le prix du pétrole augmente plus vite que les prix des autres biens, parce que c'est ça qui préserve des réserves pour l'avenir. Et donc on a simplement appliqué ce calcul au niveau du prix du pétrole il y a très longtemps, quoi, dans les années 60-70. Ça nous montre qu'aujourd'hui, le pétrole est encore moins cher que ce qu'il devrait. On devrait aujourd'hui, si cet effet d'épuisement avait été correctement traduit dans les prix, le pétrole, au lieu de valoir 65 $ le baril, devrait valoir un peu plus de 100 $, probablement, et on arrive à 380 $ en 2020.
Hein. À ceci près, c'est qu'il vaut, Patrick Artus, à l'heure actuelle, 60, 65, 70 $ approximativement, selon les jours, ce qui veut dire qu'il est moins cher qu'il n'était en 1973.
Oui, c'est ça. En termes réels, il est moins cher qu'en 1973. Il faudrait qu'on soit au-dessus, pas loin de 100 $ pour retrouver le prix de 73, et à nouveau, il serait justifié qu'il soit plus cher qu'en 73. À la fin des années 80, on avait fait beaucoup d'efforts à la fois d'économie d'énergie et de découverte de nouveaux gisements de pétrole, et le monde à ce moment-là avait presque 50 ans de réserves prouvées de pétrole, 50 ans de consommation. Aujourd'hui, on est en dessous de 40 ans, donc effectivement, on a épuisé les réserves de pétrole, et donc il faudrait même aujourd'hui qu'il soit, si on se soucie des générations futures, hein, qu'il soit plus cher en termes réels qu'au début des années 70.
Vous dites faudrait, le fait est que les prix sont là et les réalités sont là. Le pétrole, il vaut donc moins cher qu'il ne valait en 70-73, et ça ne se décrète pas le prix du pétrole, parce que si ça se décrétait, il y a belle durée qu'on aurait maîtrisé.
Oui, non, c'est un prix d'équilibre de marché. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux façons de réfléchir au prix du pétrole. Il y a de dire vers quoi nous guide l'équilibre du marché du pétrole mondial. Hein, quelles sont les nouvelles découvertes qu'on va faire, quelle va être l'évolution de la demande de pétrole, en particulier dans les pays d'Asie, en Chine. Et il y a une autre approche qui est celle que j'avais à l'instant, qui est une approche plus normative, en disant si nous avions des gouvernements qui se soucient avec un poids normal des générations futures, à combien faudrait-il qu'ils se débrouillent éventuellement en gérant le système de taxes pour que, à combien faudrait-il qu'ils mettent le prix du pétrole de façon à ce que la demande de pétrole soit compatible avec le maintien de réserves suffisantes dans le futur. Évidemment, les gouvernements ne contrôlent pas le prix d'équilibre du marché, ils peuvent contrôler le prix pour le consommateur final, et ce que je dis, c'est que si on utilise la théorie la plus simple qui dit qu'il faut simplement être prudent dans l'utilisation des ressources qui ont une limite, hein, qui sont épuisables, eh bien, aujourd'hui, le pétrole n'est pas assez cher dans une approche, à nouveau, qui n'est pas du tout une approche en termes de bien-être pour les consommateurs, mais qui est une approche complètement normative de qu'est-ce que devrait être le prix du pétrole si on se souciait des générations futures.
Approche, il faut le répéter, théorique de la part de Patrick Artus. Approche partagée tout de même par bon nombre d'environnementalistes aussi. Pour l'heure, quand on se penche sur le prix du pétrole, il faut distinguer entre le prix du baril brut et les prix des produits raffinés. Là encore, il y a l'écart entre l'offre de raffinage, elle est faible, et la demande de produits finis, elle est forte, elle est très forte. Cédric Delestrange est co-auteur de Géopolitique du pétrole, c'est publié aux éditions Technip.
Là où on peut davantage sans doute considérer que les compagnies ont eu un effort d'investissement insuffisant, c'est dans l'aval, et notamment dans l'industrie du raffinage. Et les capacités de raffinage ont peu progressé au cours des dernières années, et ça explique que dans l'augmentation des prix du carburant, il y a l'augmentation des prix du brut, il y a aussi une augmentation des prix qui est liée à la loi de l'offre et de la demande et à l'insuffisance d'offres en matière de produits raffinés et donc en matière de raffinage.
Alors, est-ce que le pétrole est cher? Quand je dis est-ce qu'il est cher, est-ce qu'il est plus cher qu'il ne l'était au moment du premier choc pétrolier 73?
Il est clairement plus cher qu'il ne l'était avant le premier choc pétrolier, et il est clairement moins cher qu'il ne l'a été dans la deuxième partie des années 70, et notamment après le deuxième choc pétrolier, celui de la révolution iranienne en 1979.
En d'autres termes, il n'est pas cher.
En d'autres termes, il est pas cher. Il est cher comparé à ce à quoi les économies occidentales se sont habituées au cours des 15 dernières années. Je ferai une remarque sur le prix et sur la perception du prix. Il faut voir que les Européens sont avantagés de ce point de vue pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que aujourd'hui, la parité entre l'euro et le dollar fait que si vous êtes européen, vous payez votre pétrole de fait moins cher que si vous êtes américain, parce que vous bénéficiez du niveau élevé de l'euro. Et puis deuxièmement, et ça peut paraître paradoxal, les consommateurs européens, et c'est vrai en matière de fuel domestique, comme c'est vrai évidemment en matière de carburant, sont protégés dans leur pouvoir d'achat par la taxation des carburants. C'est-à-dire que quand vous avez un carburant ou un produit pétrolier qui est plus taxé, comme c'est le cas en Europe, c'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Grande-Bretagne, enfin dans tous les pays européens avec des niveaux un petit peu différents, mais partout le pétrole est, en gros, les produits pétroliers sont 2 à 3 fois plus taxés qu'ils ne le sont outre-Atlantique. Et bien à ce moment-là, la conséquence, c'est que la variation du prix des produits raffinés et du prix du brut, eh bien, produit une variation sur les carburants qui est beaucoup plus limitée, puisque le gros du prix du carburant, c'est la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Donc à ce moment-là, l'effet sur votre pouvoir d'achat et sur le panier de la ménagère, si je puis dire, en matière pétrolière, est plus limité. Deux raisons qui font que on est plus protégé de l'effet augmentation des prix que ne l'est, par exemple, le consommateur américain.
D'autant que, comme l'affirmait déjà George Bush père, le mode de vie américain n'est pas négociable. Dans ce contexte, les stratégies pétrolières chinoises et américaines vont de plus en plus s'affronter. François Lafargue, docteur en géopolitique, auteur d'Opium, pétrole et islamisme, la triade du crime en Afghanistan, aux éditions Ellipse.
La stratégie chinoise, elle est pétrolière, c'est indéniable, en Amérique latine, en Afrique, mais elle est aussi politique et militaire, et c'est ça peut-être qui inquiète davantage les États-Unis. Alors, sur le plan pétrolier, c'est vrai, alors la Chine soit obtient des concessions pétrolières, ou soit rachète des filiales d'entreprises de taille modeste, de taille moyenne. Alors par exemple, la Chine a racheté la filiale d'une société canadienne. Ant Petroleum, c'est la société chinoise qui a racheté Encan, bon, en Équateur, et cela lui accorde effectivement une production quotidienne de 75 000 barils par jour, ce qui n'est pas négligeable. Alors, aujourd'hui, la Chine est surtout en train de courtiser le Mexique. Le Mexique, jusque-là, l'essentiel de son pétrole, à la hauteur de 90%, est exporté aux États-Unis. Alors le Mexique, à ce jour, n'exporte pas d'hydrocarbures vers la Chine. Et entre les deux pays, il y a, c'est vrai, très souvent, des points de vue qui sont plutôt convergents, parce que il y a une certaine méfiance ou défiance envers les États-Unis, et parce que la Chine propose beaucoup en termes de coopération et d'accès à son propre marché. Alors, on a une coopération pétrolière comparable en Afrique. Alors c'est très simple, hein. La Chine, en échange d'un accès aux matières premières, aux gisements de pétrole, eh bien, un, construit toutes les infrastructures. La Chine, par exemple, est en train de rénover, de réhabiliter la grande ligne ferroviaire en Angola entre Benguela et le sud du Congo Zaïre, hein, ce qu'on appelait le Lubumbashi. La Chine construit des barrages hydrauliques également dans de nombreux pays africains comme le Congo-Brazzaville. La Chine a construit les regards d'Alger il y a quelques années. Donc, du pétrole contre les infrastructures et du pétrole contre un appui politique, puisque la Chine soutient, dans la mesure où elle dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine protège ses amis, ses alliés, ceux qui sont souvent d'ailleurs condamnés à juste titre par la communauté internationale. Et là, on pense au Soudan, au Darfour, nul n'ignore la situation effectivement de génocide. Eh bien, le Soudan a échappé à une réelle condamnation de l'ONU. Les résolutions, effectivement, qui le concernent ont été édulcorées à la demande pressante de la Chine.
Allons un peu plus loin. La Chine a réussi à supplanter, voire éventuellement pousser, un certain nombre de ses pays concurrents qui auraient pu faire un peu pression ou consommer un tout petit peu. Enfin, je pensais au Canada, en particulier au Darfour.
Oui, alors au Canada, il y avait une entreprise Talisman, donc une entreprise canadienne, qui a dû partir. Alors, bon, contrainte et forcée à cause du poids de l'opinion publique qui nord-américaine, voilà, qui dénonçait les exactions, à juste titre d'ailleurs, au Soudan. Alors c'est vrai, il faut bien comprendre que nous, Européens, alors déjà on est peut-être moins préoccupés par la situation énergétique de l'Afrique, dans la mesure où notre approvisionnement vient principalement de Norvège, hein, et de Russie en termes gaziers et pétroliers, et parce que surtout on n'a pas les moyens financiers et politiques, eh bien, de rivaliser avec Pékin. Il faut bien comprendre que on estime aujourd'hui qu'il y a 60 000 coopérants chinois en Afrique et qui malheureusement travaillent dans des conditions comparables à celles qui existent dans leur pays natal. Bon,
On ne peut en pas Algérie, dire... c'est-à-dire comme en Algérie, ils arrivent avec...
Ils arrivent, voilà, ils sont 2-3 000, et puis ils travaillent pendant 3-4-5 mois, le temps que l'ouvrage
soit construit. Pour les salaires qu'on connaît.
Vous voulez dire qu'ils viennent avec leur main-d'œuvre.
Ils viennent avec leur main-d'œuvre locale.
De Chine.
Voilà, de Chine, exactement.
Mais vous semblez dire, François Lafargue, que la Chine va dans un certain nombre de pays parce qu'elle n'a pas beaucoup de scrupules en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, comme si nous, on était des modèles de vertu. C'est pas aussi simple que ça.
Non, c'est pas aussi simple que ça, mais vous êtes d'accord que nous, malgré tout, on a une certaine limite. Et que cette limite, là encore, hein, sans critiquer excessivement, sans stigmatiser la Chine, cette limite, la Chine ne se l'impose pas. Bon. C'est indéniable que les grands groupes pétroliers que nous connaissons tous ont eu un rôle trouble, soit durant la guerre civile au Congo-Brazzaville en 97, ou soit de manière constante hein, depuis les indépendances. Maintenant, heureusement, je n'ai pas connaissance d'entreprise hein, qui continue à extraire du pétrole alors que se déroulait un génocide, ou même, grâce à l'argent des impôts qu'elle verse ou des taxes, à financer indirectement ceux qui commettaient ces génocides. Bon, donc la Chine, par rapport à son régime politique, qui est ce que l'on connaît, bah, estime qu'elle traite avec des gouvernements qui, malgré tout, c'est vrai, sont légitimes.
Cela dit, de temps en temps, on s'est résisté, confère une locale que les Chinois voulaient absolument racheter. Les États-Unis s'y sont opposés, c'est là qu'on a entendu parler de patriotisme économique.
Oui, c'est vrai.
Notion reprise, nous, pour défendre notre leader du yaourt, Danone.
C'est vrai que la CNOOC, c'est la compagnie pétrolière chinoise principalement spécialisée dans les investissements offshore, notamment en Indonésie. Bon, ils tentaient, ils souhaitaient racheter une OCAL, qui est une entreprise de taille moyenne. Alors, les Américains se sont fondés sur le fait qu'une OCAL disposait de technologies assez particulières, notamment maîtriser la technique des sonars, pour interdire aux Chinois de racheter l'entreprise, la société, et ils ont préféré une solution américaine. Puisque c'est Chevron Texaco qui, finalement, je crois, a racheté l'entreprise. Bon, oui, je pense qu'effectivement, c'est un protectionnisme, mais qui n'est pas spécifique au secteur pétrolier, hein, et qui est appliqué d'ailleurs par la plupart des États, dans la mesure où cela, effectivement, concerne leurs intérêts majeurs essentiels.
Entrepreneurs sur France Inter. Ce matin, pétrole, l'excrément du diable. Dominique Dambert, Didier Hadès.
Pour assurer ses approvisionnements, eh bien c'est donnant-donnant. Même si pour les Occidentaux, il faut aussi compter avec la pression de l'opinion publique. Le Canadien Talisman Énergie, on l'a entendu tout à l'heure, a dû abandonner ses champs pétrolifères au Soudan. C'est vrai que le pétrole, il sentait trop mauvais pour l'opinion publique. De même pour le Français Total, qui attend des jours meilleurs pour reprendre son exploitation au Soudan. Quant aux Chinois, eux, eh bien, ils sont moins regardants. En construisant le terminal du port d'Alger, des équipements lourds en Angola ou au Soudan, des routes en Guinée équatoriale, la Chine aide ces pays qui ont besoin d'équipements que les Occidentaux, qui se pincent le nez, ne veulent pas ou ne peuvent plus fournir. La Chine pèse sur les marchés, et l'Inde sûrement aussi, même si elle est beaucoup plus discrète. François Lafargue, docteur en géopolitique, il anime le séminaire Géopolitique contemporaine à l'École centrale de Paris.
L'Inde, à mon avis, c'est le troisième acteur qui reste encore un peu en retrait, qui reste timide, mais qui, dans les 10 ans à venir, va, là encore, déstabiliser profondément les marchés mondiaux du pétrole et du
gaz. Avec ou sans scrupules ?
Oui, alors espérons que ce soit avec scrupule, mais malheureusement pour l'instant j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un peu l'inverse. Bah, ils sont les derniers, donc évidemment les méthodes à utiliser sont parfois un peu violentes. Alors d'abord l'Inde, c'est une situation énergétique encore plus grave que la Chine, puisque la Chine a du pétrole, bon, faiblement.
L'Inde pas.
Voilà, la Chine c'est 1,4%, l'Inde c'est la moitié. Bon, la population est la même, grosso modo. Et on a un décollage économique de l'Inde. Alors, c'est vrai qu'en Occident, notre regard est focalisé sur la Chine pour des raisons diverses, hein, peut-être historiques, etc. Mais en Inde, on a une croissance économique hein, qui est importante. Et juste un chiffre, chaque année, on vend en Inde 400 000 nouveaux véhicules. Bon, ce qui est considérable. Ce qui traduit bien, effectivement, eh bien, l'augmentation du pouvoir d'achat dans ce pays.
Et ils veulent en plus des climatiseurs.
Voilà, et ils veulent en plus, bon là on peut les comprendre aisément. Hein. Alors aujourd'hui, 70% des importations de l'Inde, viennent évidemment de l'étranger. Hein. Et l'Inde a une stratégie un peu similaire à celle de la Chine, c'est-à-dire aller là où personne ne va. Donc, par exemple, les Indiens ont ouvert une raffinerie à Madagascar, à l'île Maurice. Là, c'est juste une raffinerie parce que c'est sur le chemin du retour vers l'Inde. Alors, il y a aujourd'hui une véritable compétition énergétique en Côte d'Ivoire. Le pétrole ivoirien est mis en valeur en partie par une société américaine, c'est vrai, mais également l'ONGC, la compagnie indienne, et les Chinois. Au Mali, au Niger, on avait trouvé du pétrole au moment des indépendances, mais à l'époque, ce n'était pas rentable, ce n'était pas intéressant, etc. Eh bien, aujourd'hui, on a des prospections au Mali et au Niger qui sont effectuées par des sociétés chinoises et indiennes. Donc, on a, c'est vrai, une compétition entre ces deux puissances montantes, ces deux puissances du XXIe siècle, à la fois en Afrique, en Asie centrale, mais également en Amérique latine, puisque les Indiens forent et extraient du pétrole à Cuba, à côté de concessions effectivement chinoises. La grande différence entre la Chine et à mon avis l'Inde, c'est qu'il n'y a pas d'arrière-pensée politique de la part des Indiens. C'est-à-dire que les Chinois, quand ils viennent, ils proposent effectivement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, du matériel, une coopération, la construction d'infrastructures, ce que font parfois les Indiens, mais aussi la Chine essaie d'isoler Taïwan, puisque très souvent ses fournisseurs africains ou en Amérique latine reconnaissent Taïwan. C'est le cas effectivement du Tchad. Le Tchad, c'est l'un des pays d'Afrique qui reconnaît Taïwan, et donc les Chinois disent, on vient chez vous, on vient extraire le pétrole, on vient investir, bon, voilà, hein. Le minimum, voilà, c'est de rompre toute relation diplomatique avec Taïwan. Et ce qui est une menace importante pour ça, ce qu'ils finissent effectivement progressivement par faire. Parce que en Amérique latine, il faut bien comprendre aussi que depuis la rétrocession du canal de Panama à l'État de Panama, le canal est géré par une entreprise de Hong Kong, donc en fait chinoise, Hutchinson. Donc beaucoup de pays d'Amérique centrale, en fait, dépendent pour leur commerce du canal de Panama. Alors si en plus ils dépendent pour leurs investissements de la Chine populaire, bon, ça fait beaucoup. Et ils préfèrent revoir leur politique.
La malédiction du pétrole. Le politologue béninois et professeur à l'université de New York, Leonard Watchukon, a mené une étude sur les économies et les régimes politiques des États leaders de l'OPEP et dans les pays africains qui ont des ressources pétrolières. Son constat est sans appel, il y a une malédiction du pétrole, un point de vue d'ailleurs partagé par de nombreux observateurs. Une exception à signaler, la Norvège. Leonard Watchukon a comparé le Nigeria et la Norvège. Deux pays qui découvrent pratiquement en même temps, dans les années 60, d'importants gisements pétroliers. La Norvège a su tirer profit de sa manne pétrolière. La Norvège a notamment constitué un fonds qui servira à financer les retraites. En revanche, au Nigeria, comme dans beaucoup d'autres pays, l'or noir a aggravé la situation. Leonard Watchukon.
La Norvège a des institutions qui permettent de contrôler la gestion, de permettre la gestion transparente de la manne pétrolière, bon, alors que le Nigeria n'en a pas. Donc on peut mettre l'accent sur deux points. Premièrement, le fait que les institutions ne sont pas solides au Nigeria, donc le pétrole est venu générer des conflits, générer de la corruption et autres, ce qui n'est pas le cas en Norvège. Deuxièmement, c'est le fait que les institutions de l'État au Nigeria ne permettent pas, disons, un contrôle transparent de la gestion. Donc ça donne énormément de pouvoir à l'exécutif et donc ce qui n'arrange pas les choses, quoi.
Mais vous pensez que ça peut changer à terme?
Bien sûr, bien sûr. Bon, maintenant, c'est plus difficile. Bon, maintenant, je crois que ça doit être des réformes au niveau des institutions de l'État. C'est-à-dire, il faut non seulement la démocratie, mais aussi créer des institutions qui permettent une meilleure transparence de la gestion. Prenez un pays comme le Cameroun, par exemple. Le pétrole est dans un compte fictif contrôlé directement par la présidence. C'est-à-dire on peut l'utiliser pour acheter les votes, on peut l'utiliser pour consolider son pouvoir personnel, ainsi de suite. Bon, donc, la clé, c'est l'information, la transparence de la gestion. Ça passe par là. Est-ce que ceux qui sont là, ceux qui sont au pouvoir, vont être ouverts à cette transparence-là? C'est tout le problème, quoi. Ça va être difficile, ça va être très difficile parce que le pétrole, disons, a des effets pervers. Ceux qui bénéficient de ces effets pervers-là, c'est ceux qui sont au pouvoir, donc ils n'ont aucune incitation à changer les choses, à changer le status quo. Je ne suis pas extrêmement optimiste, mais je crois que quelque chose est possible. Donc il y a des tentatives qui se font aujourd'hui au Nigeria, par exemple, pour combattre la corruption, pour rendre la gestion des ressources pétrolières beaucoup plus transparente, mais je ne sais pas jusqu'où ça ira, quoi.
Est-ce que ça peut être sous la pression d'organisations internationales qui connues?
Absolument, absolument. Donc, il y a les organisations internationales qui ont un rôle extrêmement important à jouer dans ce sens-là.
Également, il y a les États, les États-Unis, la France, l'Angleterre, donc qui ont également un rôle très important à jouer. Donc, c'est-à-dire au moins limiter le degré d'intervention étrangère dans ces pays-là, laisser les forces politiques, disons nationales, jouer le jeu de la démocratie plutôt que de préférer un candidat à un autre simplement parce que ce candidat est un allié économique ou un allié politique plutôt que l'autre, quoi.
C'est pas bon d'être riche quand on est en développement.
Oui, c'est ça. Bon, en fait, ça dépend de comment on est riche. C'est-à-dire, si vous êtes riche par le travail, si vous êtes riche par le développement technologique, riche par, comment on appelle, la qualité de votre système éducatif, ainsi de suite. Bon, là, vous êtes riche et puis c'est tout. Mais si vous êtes riche simplement parce que la manne pétrolière vous tombe du ciel, ça génère des effets pervers. Donc, bon, maintenant, justement, il faut faire très, très, très attention. Parce que lorsque vous êtes riche par le développement économique en tant que tel, là, il y a des mécanismes qui permettent d'accompagner ce développement économique avec un développement politique. Parce qu'il y a un système de accountability, comme on dit en anglais, qui vient avec le fait que les gens qui payent les taxes contrôlent le gouvernement jusqu'à un certain point et demandent des comptes au gouvernement. C'est-à-dire, si, par exemple, les ressources du gouvernement viennent des citoyens, il se fera que les citoyens auront plus de poids dans l'avenir politique et dans la gestion des affaires du pays. Bon, mais si ça vient de la manne pétrolière, c'est plutôt l'inverse. C'est le gouvernement qui contrôle cette manne-là, qui a un contrôle absolu sur les citoyens. Et c'est encore plus grave lorsque ce gouvernement est contrôlé par des puissances étrangères. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est justement pour ça que c'est nécessaire de donner un certain pouvoir aux citoyens en rendant la gestion transparente, en leur faisant comprendre que la manne pétrolière, c'est pas pour le président, c'est pas pour le gouvernement, c'est pour le pays, et qu'ils ont droit de regard sur ce qui se fait. Et c'est pour ça que, dans un certain sens, je dis souvent que du Bénin, je dis, nous sommes heureux de n'avoir pas été un pays pétrolier. C'est-à-dire, si on était un pays pétrolier, on ne pourrait jamais être démocratique. Et si on n'était pas démocratique, donc, vous voyez, donc Mali, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est un paradoxe, mais lié à la nature de cette richesse-là.
Les cours du pétrole sont élevés. Et il devrait le rester. Curieusement, il ne provoque pas d'inflation, à la différence de ce qui s'est passé dans les années 70. Bien sûr, l'environnement n'est pas le même. On aurait pu imaginer qu'avec un pétrole à 70 dollars et des taux d'intérêt à 3,5%, les États-Unis seraient en récession. Or, et nous le savons bien, il n'en est rien. C'est que, paradoxalement, observe Patrick Artus, directeur de la recherche et des études chez XICIB, la flambée rapporte aux compagnies pétrolières, certes, mais pas seulement.
Ce qui explique qu'il n'y a pas d'inflation, c'est le contexte complètement différent par rapport aux années 70. Dans les années 70, on était très largement dans des économies fermées, et donc quand le prix du pétrole augmentait, on avait des réactions aux États-Unis, en Europe, au Japon, qui étaient très rapidement, les salaires augmentaient, les autres prix augmentaient, et on finissait avec des inflations à deux chiffres. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. On est dans des économies complètement ouvertes, les salaires ne peuvent pas augmenter, à cause de la concurrence des pays émergents, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Malgré ces hausses de prix du pétrole, les salaires augmentent d'à peu près 2% chaque année et ne montrent aucun signe d'accélération. Au contraire, ils ont plutôt tendance à ralentir. Et donc la différence énorme par rapport au choc des années 70, c'est qu'il y a la Chine, quoi, en gros, et les pays d'Europe centrale. Ce qui fait que la seule répercussion de la hausse du prix du pétrole sur l'inflation, c'est la répercussion complètement mécanique pour l'instant. Ce qui monte, c'est les prix de l'énergie, les prix des carburants, les prix de l'essence pour les voitures, mais pas les autres prix, parce qu'il n'y a pas de transmission par les salaires. Et ça, c'est complètement différent de ce qu'on a vu il y a 30 ans. Et donc, ça explique les choses assez bizarres qu'on voit dans les indices des prix. On a vu la semaine dernière aux États-Unis que l'inflation, à nouveau, est presque à 5%, et que si vous enlevez le prix de l'énergie, l'inflation est à 2% et diminue. Donc, en réalité, on reste, à cause de la concurrence des pays émergents à salaire faible, on reste dans une logique qui est profondément désinflationniste, qui est même déflationniste dans l'industrie. Et le seul bout, pour l'instant, des prix qui montent, c'est les prix directement de l'énergie et pas du tout le reste. Et donc, on n'a pas du tout le même effet sur l'inflation que dans les années 70.
Patrick Artus, on pense toujours à ce que coûte le pétrole, mais pas à ce qu'il rapporte. Alors, on sait qu'il y a tout le débat sur les profits des compagnies pétrolières. Thierry Desmarais disait que 80% des bénéfices issus du pétrole servent à être réinvestis et 20% au service des actionnaires. Ça rapporte à qui, le pétrole, indépendamment des compagnies pétrolières ?
Il faut regarder d'abord la circulation globale de l'argent du pétrole. Donc ça rapporte effectivement aux compagnies pétrolières, mais essentiellement l'argent du pétrole, c'est un argent qui est pris assez largement dans les poches des ménages, hein, des consommateurs dans les pays consommateurs de pétrole, en Europe, aux États-Unis, au Japon, qui est d'abord donné aux pays exportateurs de pétrole, à la Russie, aux pays de l'OPEP, au Mexique, et dont une partie revient sous forme d'achat de biens. Et donc on oublie souvent ça, hein, que les pays producteurs de pétrole sont aussi acheteurs de nos biens. Alors la difficulté, c'est que tout le monde n'en profite pas de la même, dans la même proportion. Depuis la hausse du prix du pétrole qui commence en 99, hein, mais surtout depuis 2002, on s'aperçoit par exemple que les Américains, les États-Unis n'ont absolument pas augmenté leurs ventes aux pays producteurs de pétrole. Hein, ils sont absolument plates, et donc il y a un gros prélèvement sur le pouvoir d'achat des Américains globalement, qui est donc plus sur les ménages, hein, que sur les entreprises. En Europe, vous avez absolument quelque chose de différent. L'Europe a exporté vers les pays producteurs de pétrole des quantités supplémentaires qui sont à peu près exactement identiques à la hausse de la facture pétrolière. Donc il n'y a eu aucun prélèvement global sur les revenus en Europe. On a retrouvé en supplément d'exportation ce qu'on perdait en supplément d'importation d'énergie. Mais alors évidemment, à l'intérieur de l'Europe, il y a un gros effet de redistribution. En gros, les ménages payent leur énergie plus cher, donnent l'argent aux pays producteurs de pétrole, qui avec ça achètent des produits fabriqués en Europe, des biens d'équipement, des voitures, de l'alimentation, tout ce que vous voulez, et ça retombe surtout dans la poche des entreprises exportatrices. Donc on a un gros transfert en fait entre les ménages et les entreprises. Mais globalement, il n'y a pas de prélèvement sur le revenu des Européens pris dans leur ensemble. C'est pas du tout le cas aux États-Unis, c'est pas du tout le cas au Japon, où là il y a un gros prélèvement sur les revenus. Donc ce qui est tout à fait stratégique là, c'est de regarder à qui les pays producteurs de pétrole achètent des biens. L'Allemagne, par exemple, est un pays dont la croissance a été augmentée par la hausse du prix du pétrole. Hein, ils ont un supplément d'exportation vers les pays de l'OPEP, la Russie, etc., tellement important qu'il faut réviser à la hausse les chiffres de croissance de l'Allemagne avec la hausse du prix du pétrole. Ça, c'est l'effet commerce. Et puis, vous avez un effet sur les marchés financiers. Tout ce qui n'est pas dépensé par les pays producteurs de pétrole est investi sur les marchés. Et ça contribue à faire baisser les taux d'intérêt. Donc, c'est aussi un facteur de soutien de l'activité.
Bon, pas d'inquiétude à avoir. Alors, on va tranquillement vers les 380 dollars, hors taxes, bien sûr.
Ben, je crois que il me semble que c'est pas, aujourd'hui, dans les ordres de grandeur que nous avons... C'est un problème, hein, je dirais. Il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est un problème qui est nettement moins grave, il me semble, en tout cas en Europe, que d'autres. Hein. À nouveau, ça n'a pas d'effet négatif sur la croissance européenne, grâce au supplément d'exportation. Ça a peut-être même un effet légèrement positif, parce que ça contribue à baisser nos taux d'intérêt et à rendre le crédit moins cher. Et ça ne provoque pas une inflation. L'inflation européenne est à 2,5%, donc probablement on échappera aux hausses de taux de la Banque Centrale Européenne. Ça n'a pas d'effet dramatique sur l'Europe. En termes de gravité, on peut absolument pas expliquer la faible croissance en Europe par les effets de la hausse du prix du pétrole. C'est une analyse tout à fait trompeuse de dire ça. La hausse du prix du pétrole a pour l'instant pratiquement aucun effet négatif sur la croissance européenne. Et si on a juste un peu au-dessus de 20% de croissance en Europe, c'est pas à cause de ça. C'est à cause des délocalisations, c'est à cause de la faiblesse des revenus, c'est à cause des pressions à la baisse sur les salaires avec la concurrence des émergents, enfin tous les facteurs qu'on connaît, mais ça n'a à peu près aucun rapport pour l'instant avec le prix du pétrole. Donc il ne faudrait pas que le prix du pétrole serve de bouc émissaire à la mauvaise performance de croissance.
Il ne faudrait pas que le prix du pétrole serve de bouc émissaire à la mauvaise performance de croissance, mais le pétrole va de plus en plus aiguiser les appétits et exacerber la concurrence. À 5 ou 10 ans, la demande chinoise va continuer à augmenter à un rythme soutenu. Les États-Unis vont vouloir par tous les moyens sécuriser leurs approvisionnements. Chine, États-Unis, deux géants aux appétits d'ogre, y a-t-il un risque de conflit entre les deux pays? François Lafargue, spécialiste de géopolitique.
Risque de conflit ouvert entre la Chine et les États-Unis, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut susciter l'intérêt, là, hein, la fameuse guerre sino-américaine. Alors, bon, sincèrement, je n'y crois pas, et bien sûr, je pense que personne ne la souhaite. Par contre, affrontement à la périphérie, à la limite, comme durant la guerre froide, pourquoi pas? C'est-à-dire que si on prend le cas de Cuba, Castro est soutenu par la Chine, légèrement, c'est vrai, par l'Inde, et puis en face, on a les États-Unis qui essaient d'influencer, de modifier le régime local, un peu comme au Venezuela. Mais regardez au Salvador, le candidat de la gauche, il est soutenu par la Chine. Au Mexique, le challenger de Fox, du président Fox, alors Fox, c'est la droite hein, mexicaine, soutenue par les États-Unis, son opposant, qui est l'ancien maire de Mexico, il est Alors non pas soutenu par la Chine, faut pas non plus exagérer, mais il a la bienveillance chinoise, qui probablement, c'est vrai, l'aide financièrement ou sur le plan logistique. Donc, une guerre ouverte, non, une guerre d'influence, ça assurément. D'ailleurs, je pense qu'elle a déjà commencé.
On a vu, François Laffer, la compétition qu'il y a pour avoir ce pétrole, mais il y a des nouveaux acteurs. À qui va profiter cette nouvelle manne pétrolière? Alors, la question est toujours du développement. Est-ce que ça va profiter aux populations ou est-ce que ça va aller dans quelques poches?
C'est une très bonne remarque. Alors, vous le savez, comme on dit souvent en Afrique, hein, le pétrole qui devrait être effectivement une bénédiction devient souvent une malédiction. Et quand on regarde effectivement les conséquences du premier choc pétrolier, malheureusement, très souvent, la plupart des États sont plus pauvres aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Je pense notamment au Congo-Brazzaville, mais même, pourquoi pas, en Amérique latine, à l'Équateur, au Venezuela.
Ou l'Algérie.
Voilà, ou même l'Algérie, effectivement. Alors, c'est vrai que déjà, ces États africains et la plupart des pays d'Amérique latine ne sont pas dans l'OPEP. Bon, ça veut dire qu'ils peuvent produire autant qu'ils le souhaitent, ce qui peut progressivement, finalement, réduire l'impact du choc financier en Occident, si tant est qu'il y ait un impact financier. Alors, les pays africains, justement, tentent de s'organiser, de faire une deuxième OPEP avec l'APA. Alors, l'APA, c'est l'Association des pays africains producteurs de pétrole. L'idée, c'est justement de profiter de cette manne financière, cette manne économique, cette manne pétrolière, pour tout simplement garantir que les prix restent constamment à la hausse. Bon. Alors, à qui, finalement, le pétrole va-t-il profiter? Alors, il y a deux réponses. Alors, l'une positive et l'autre négative. L'une positive, c'est qu'on pourrait multiplier ce qu'a fait la Banque mondiale au Tchad. La Banque mondiale avec Exxon, ils ont construit un oléoduc qui part du Tchad, qui traverse le Cameroun et qui aboutit dans le golfe de Guinée. En échange d'un financement effectué par la Banque mondiale, eh bien, les revenus pétroliers sont en grande partie gérés par une institution financière internationale et l'essentiel de l'argent est consacré à l'éducation. Bon, alors c'est trop récent pour qu'on puisse en tirer un bilan et le jeu favorable, mais c'est plutôt une bonne initiative. Alors, l'autre élément négatif, hein, c'est que l'argent, il va tout simplement, hein, malheureusement, ça a toujours été le cas, et pourquoi ça devrait s'arrêter, tout simplement dans les caisses des dirigeants des partis politiques. Hein. C'est vrai, hein, si on prend le cas du Gabon, du Congo-Brazzaville, quand on voit les routes défoncées, on voit l'absence de toute infrastructure, et quand on voit surtout ce qui se passe en ce moment en Afrique, hein, c'est un constat un peu amer.
François Lafargue, le pétrole, il a malgré tout une importance géopolitique majeure. Il y a ceux qui en ont, ce qui compte surtout, c'est le contrôle des routes.
Bah, le contrôle des axes de communication maritime, c'est ça effectivement l'un des grands enjeux. D'ailleurs, c'est pour ça que les grandes puissances, que ce soit la Grande-Bretagne, les États-Unis, hein, depuis le début du XXe siècle, ont toujours voulu effectivement contrôler les points de passage principaux, Panama, le Cap de Bonne-Espérance, Aden, Bab-el-Mandeb, ben, l'entrée de la mer Rouge, Suez, et puis naturellement l'étroit d'Ormuz et maintenant Malacca. Et effectivement, la Chine et l'Inde sont dans une posture qui est moins favorable que les États-Unis, à mesure où ils n'ont pas de marine, que la Chine n'a réellement pas de porte-avions pour l'instant, pas de sous-marins qui puissent dépasser les eaux territoriales de la mer de Chine, et surtout parce que effectivement, les points clés, les points de passage, sont sous contrôle en grande partie américain. Bon, alors ne pas tomber dans l'excès, les Américains ne vont pas fermer ces points de passage, mais on comprend aisément effectivement que ces États, eh bien, savent qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité. Et on le voit à Malacca, chacun sait désormais qu'il y a très fréquemment des actes de piraterie maritime, que la piraterie maritime, ce que l'on sait moins, se développe maintenant dans la corne de l'Afrique de l'Est, Somalie, Kenya, et maintenant gagne un peu Madagascar. On a eu des actes l'an dernier qui ont été effectivement relevés. Donc cette sécurité de la mer, cette sécurité de ses propres convois maritimes, c'est également un enjeu. Et n'oublions pas que le pétrole de la Chine qui vient d'Amérique latine traverse tout le Pacifique, et là la Chine n'a pas une seule base relais, une seule base navale.
Il y a eu les chocs pétroliers, il y a eu le yo-yo des cours, et maintenant il y a la tendance durable à un pétrole cher qui arrange bien des producteurs, ceux qui le deviennent et ceux qui le redeviennent. Il y a les clients qui sont prêts à tout pour avoir leur baril. Tous les éléments sont réunis pour écrire des thrillers échevelés, sauf que ces histoires ne sont pas écrites par des romanciers, mais par des témoins d'histoires, d'histoires vraies bien sûr. Rue des Entrepreneurs était réalisé par Marie Merrier avec Pascal Baldassari et Christophe Papon, documentation Estelle Ferrari, traduction de Cécile Fandose, assistante Brigitte Leca. La semaine prochaine, nous revenons sur ce dossier que vous avez été très nombreux à vouloir réécouter, celui qui concerne l'autorité. Au passage, regardez la croix, page spéciale.